Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 5 et nous voulons continuer ce que nous avons commencé jeudi soir, donc en Jean 5. Et juste pour réviser, j'aimerais revoir le contexte. Donc Jésus qui était à Jérusalem pour une grande fête des Juifs. C'était un jour de sabbat lorsqu'il entre dans la piscine de Bethesda, qui veut dire maison de la miséricorde, ou plus précisément maison d'olive. Pendant qu'il était là dans les portiques de ces piscines, en fait, ce sont deux qui se situent juste à côté du temple, il voit un homme qui était malade depuis 38 ans. Quand Jésus voit cet homme, il demande s'il voulait être guéri. Il guérit. L'homme, pour la première fois en 38 ans, peut marcher. Jésus lui demande de porter son lit. Ça provoque pas mal de scandales parce qu'il portait son lit le jour du sabbat, une chose qui n'est pas du tout admise dans la tradition, alors que la loi elle-même n'est pas très claire. Ce qui est sûr, c'est que pour cet homme, ce n'était pas du tout travail. Oh, c'était sa joie de porter cette lit. Lit sur laquelle il était allongé pour tellement de temps. Maintenant libéré de cette maladie. Il connaît la vie. Non, c'était vraiment sa joie de la porter. Et donc, Jésus, par ce geste, il accomplit le sabbat parce qu'il donne le repos à un homme qui était malade, qui était loin du temple, qui maintenant peut louer le Seigneur avec tout le monde, pour la première fois encore pour presque 40 ans. Mais les chefs religieux n'apprécient pas du tout ce que Jésus a fait, parce que ça brise les traditions, il n'y a rien de plus important souvent que des traditions des hommes. Et donc il est poursuivi, ou le mot en grec est plutôt chassé ou traqué par ces hommes, comme un animal. La première plainte vise le respect du sabbat. Ils ne comprenaient jamais pourquoi Jésus faisait ces choses le jour du sabbat. C'est à respecter. La deuxième s'oppose au fait que Jésus se mette à l'égalité avec Dieu. Et avec ces deux accusations contre lui, Jésus explique ses actions et dit qu'en fait, la raison pour laquelle il a agi ainsi, c'est tout simplement parce qu'il est celui qui donne la vie. Et comme dans tout tribunal sur la terre, il a des témoins, il a un témoin justement. Et c'est aussi important parce que c'est Jésus qui a donné la loi en tant que la parole de Dieu. Et donc il connaît parfaitement toutes ces nuances. Il vivait parfaitement et harmonieusement en accomplissant la loi. Et donc, il est soutenu par un témoin avec quatre voix. Mais tout d'abord, il est celui qui donne la vie. Regardons à partir de verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera aussi des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. La première chose que nous voyons, c'est que le Père et le Fils travaillent harmonieusement ensemble dans le monde. Il y a une harmonie complète. Jésus, il dit, véritablement, le Fils, il ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire que Jésus ne prenait jamais l'initiative dans son ministère, mais il imitait tout ce qu'il a vu chez le Père depuis toujours. Et ça, je crois, est crucial à le dire, surtout parce que ça va tout à fait au contraire de ce que nous entendons. Nos parents, nos enseignants ont été toujours derrière nous en disant prendre l'initiative, aller devant. Mais non, Jésus dit que, en fait, tout mon ministère, et c'est intéressant parce que Jésus, dans son imitation du Père, allait au devant. Mais ce n'était pas lui qui prenait l'initiative, c'était le Père qui lui a dirigé. Et c'est ça qui a fait l'unique ministère de Dieu. Ce n'était pas une chose qu'il a inventée de lui-même. Non, c'était quelque chose divinement donné. C'était Dieu qui a dirigé, Dieu le Père. Et il imite tout ce que le Père fait. Mais je vous pose une question. En chapitre 1, nous avons lu en fait que personne n'a jamais vu Dieu. Mais si personne n'a jamais vu Dieu, comment Jésus a pu imiter le Père? Ah, mais continuons le verset 18 de chapitre 1. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voilà toute la réponse. Jésus qui était avec le Père depuis toujours, depuis toute éternité, il voyait, il connaît le Père. Il a vu ce que le Père a fait, comment il agit, il connaît son Père. En plus, il est rempli du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit le guide dans le monde. Il ne prend jamais l'initiative, mais il fait tout ce que le Père voit. Il travaille avec une relation tellement harmonieuse que ça marche à merveille. Rappelez-vous de votre meilleure expérience au travail où, en équipe, vous travaillez parfaitement aussi, vous faites du sport. Quand vous étiez avec une équipe qui travaillait parfaitement, où tout le monde fait son part et il y a la récompense, la victoire après. Moi qui étais musicien, il n'y avait pas de plus grand plaisir que de jouer avec un groupe de musiciens et ça coulait tout naturellement, chacun jouait son part et puis le résultat était merveilleux. Mais ça c'est juste une petite image de ce que nous voyons chez Jésus, mais c'est beaucoup plus grand, puisque nous parlons de Dieu. Et quelle était la base de cette relation? Il nous le dit, c'est verset 20, « Car le Père aime le Fils. » Cette merveilleuse relation de travail harmonieuse, la base de cette relation, c'est l'amour. C'est pour ça que ça marche tellement bien. C'est l'amour, et ça commence avec le Père. Le Père aime le Fils. Donc la source de l'amour vient du Père. Et donc il montre tout ce qu'il fait. Voyons comment ils s'aiment entre eux. Ils sont unis, unis par amour. Et il y a de plus grandes œuvres encore pour un amour qui veut attirer les gens. Là, il parle que vous soyez dans l'étonnement. C'est pas choqué, mais pour les attirer à Dieu. Encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il veut les attirer. Et donc, il y a cette relation de travail harmonieuse. Et Jésus travailler ainsi dans le monde pendant son ministère. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Quel bel exemple pour nous aussi qui veut travailler pour Dieu. Il ne faut pas prendre l'initiative, mais il faut s'inspirer de Jésus, dirigé par le Saint-Esprit, en travaillant avec une relation d'amour envers notre Dieu et envers les autres. Mais quelles sont ses plus grandes œuvres? Et c'est ça ce qu'il dit. Il y a une œuvre plus grande qu'une simple guérison le jour de sabbat. Verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » C'est-à-dire que il y aura une plus grande œuvre. Le Père, en fait, il fait revivre des morts. C'est la résurrection. Mais attention, ce n'est pas la résurrection comme avec Lazare ou avec les autres personnes que Dieu a fait revivre dans l'Ancien Testament. Parce que ces gens-là, ils sont morts encore. Alors que la résurrection, c'est quand nous aurons un corps qui ne serait plus assujetti à la maladie et au péché, mais qui serait fait pour être même dans la présence de Dieu saint. Et c'est le Père qui le fait, justement, qui a ressuscité Jésus des morts, c'était le Père. Mais comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Mais ce n'est pas une chose arbitraire, capricieuse. Ce n'est pas, et je crois que nous avons tous cette crainte, surtout parce que c'est un grand pouvoir, il peut donner la vie à qui il veut. Mais ce n'est pas du tout comme ma fille de 2 ans qui... Elle, quand elle fait tout ce qu'elle veut, elle n'a pas de sens. Elle aime une personne une seconde et puis c'est la dernière personne sur la terre avec qui elle veut être. Elle donne tout à une personne et elle prend tout à une autre personne. Non, 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 c'est pas du tout ça. Bannissons cette crainte. Nous parlons de Dieu très haut. Quand Jésus donne la vie à qui il veut. C'est tout écrit. Il n'y a pas de mystère. Et nous allons voir quelles sont ces choses. Mais c'est comme le Père fait revivre des morts, Jésus donne la vie. Encore la source de la vie remonte au Père. Et ça découle de Jésus. Verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et ça, c'est assez frappant parce que on entend plutôt que ça soit le Père qui juge. Parce que normalement, on a cette idée que le Père a l'autorité. Je sais que dans ma maison, par exemple, avec moi et mon frère, quand ma mère disait maintenant, vous êtes allé trop loin, je vais en parler à ton père. Là, il y avait le tremblement dans la maison parce que on sait que c'était le père qui discipline. Mais ici, c'est toute une autre chose. Donc, comme le Père ressuscite les morts, il donne la vie à qui il veut, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. C'est Jésus donc qui juge. Il y a déjà un jugement dans le sens qu'il donne la vie à qui il le veut. C'est-à-dire que pour ceux qui ne donnent pas la vie, il y a donc jugement. Ou, mieux dit encore, nous sommes déjà sous le coup du jugement. Jusqu'à ce que Jésus nous donne la vie. C'est-à-dire que quand Jésus nous donne la vie, il y a libération, réconciliation et grâce. Tout est fait pour que les gens ils se tournent même vers Christ. Car le jugement est donc donné au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et donc, nous voyons que nous ne pouvons pas honorer le Père sans honorer le Fils. C'est le Père qui donne la vie, Jésus, il donne la vie à qui il le veut, et donc, c'est lui qui juge. C'est le Père qui aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et comme il a donné son propre Fils, il est impossible que quelqu'un qui vient à Dieu n'honore pas le Fils. Et ça va tout à fait contre tout ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Ah bah oui, on veut venir à Dieu, on veut honorer une divinité, mais sans forcément passer par Jésus, sans reconnaître ses fautes et ses péchés. Mais c'est impossible. Parce que Dieu le Père et Dieu le Fils travaillent ensemble en amour. Cette relation est tellement pure, tellement étroite qu'elle ne peut pas être séparée. De même, moi avec ma femme, si j'avais un ami, et heureusement, je n'ai pas ce genre d'ami que je vais décrire, mais si j'avais un ami qui m'aimait et on s'entend très bien, mais qui n'aimait pas ma femme, et chaque fois qu'il voulait prendre un café, il m'appelait, mais dès qu'il entend que ma femme vient, il s'excuse et ne peut plus aller, nous verrons très bien que cette relation ne peut pas progresser. Cette personne-là sera une offense pour moi, surtout parce que j'aime ma jolie femme, elle est superbe. Mais je ne veux pas du tout continuer avec une telle relation, surtout à quelqu'un qui s'oppose à elle. Mais combien de plus pour notre Dieu créateur qui nous a donné son fils qui est mort même pour nous. Quelle insulte finalement de dire « oui, j'aime Dieu, mais je ne veux pas forcément passer par son fils qui a tout donné ». Tout donner pour me sauver. C'est impensable. Et donc, quelle est cette œuvre plus grande que cette guérison? C'est que Jésus donne la vie. Même cette guérison était une image physique de ce qui est spirituel. Parce que l'homme était mort. Presque. Et Jésus intervient dans sa vie. Il lui apporte la guérison et la vie, mais c'était une image de ce qui s'est passé réellement. Il s'en sert de cet exemple pour parler à ses chefs religieux qui, pareil, n'ont pas compris le plus grand sens. Donc, comme le Père et le Fils travaillent ensemble harmonieusement dans le monde pour faire des œuvres plus grandes qu'une simple guérison le jour du sabbat, maintenant Jésus s'explique pouvoir. Qu'il a le pouvoir sur la vie. En vérité, il dit, verset 24, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Donc, il l'a déjà. Ce n'est pas quelque chose pour lequel il attend des années jusqu'à avant, après sa mort. Non, il l'a maintenant, aujourd'hui, la vie de Dieu est en lui. Il l'a. Il a la vie, mais c'est celui qui écoute sa parole. Et celui qui croit qui m'a envoyé, il a la vie. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et voilà le jugement expliqué. Et aussi la volonté de Jésus de donner la vie à qui il veut. Il donne la vie à ceux qui croient en lui. Et pourquoi en lui? Comme il est dit en Romains chapitre 10, il faut entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend, par la parole de Christ. Et ça, c'est pourquoi il est primordial, lorsque nous annonçons l'évangile et nous partageons notre foi, que nous utilisons les mots. Il faut parler, il faut utiliser la parole de Jésus. Ne serait-ce qu'une tracte ou quelque chose, ça doit passer par la parole. Sinon, comment ça peut se faire? Ça donne l'occasion pour les gens d'écouter sa parole, de l'entendre et de donner leur vie. Et le jugement, c'est que les gens y passent de la mort à la vie. Ils étaient déjà morts. Nous sommes déjà morts avant de venir en Christ. Parce que nous avons cette nature pécheresse. Si vous ne croyez pas, essayez pendant une belle journée de ne pas briser un seul des commandements de Dieu. Pas seulement à l'extérieur, mais au fond de votre cœur. Car Jésus a dit, vous avez entendu que vous ne commettez pas l'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Alors, essayez et revenez après, parce que vous avez un sauveur qui sauve les pécheurs comme nous. Il ne veut pas vous repousser, il veut donner la vie. Mais il faut que nous croyions et que nous repentions. Ça fait partie de notre foi, justement. La repentance, c'est l'acte même de notre foi. Donc, on passe de la mort à la vie. Verset 25, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc premièrement, ce qu'il dit, c'est que dans le contexte, nous parlons de ceux qui sont morts spirituellement. Ils entendent la voix de Jésus. Ils croient et sont sauvés. La vie éternelle entre en eux. Ils sont changés. Oui, nous savons, grâce à Éphésiens 4, que le Fils, après la crucifixion, descend dans le séjour des morts, il libère les captifs et il ressuscite pour donner les dons aux hommes. Ce n'est pas ça forcément dans le contexte, même si ça s'applique. Là, on parle, comme on a parlé avant, de ceux qui sont spirituellement morts et en entendant la parole de Christ, ils revivent. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui donne le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et ça c'est remarquable aussi. Comme le Père, il a cette vie en lui-même. C'est donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Pour donner la vie à nous les hommes. Femmes sur terre. Il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est parce que Jésus est incarné, parce qu'il a marché dans ce monde pur et saint, qui s'est limité à notre humanité, parce qu'il nous connaît parfaitement. Il connaît ce que c'est d'être un homme. Il connaît ce que c'est d'être rejeté. Et même persécuté, même s'il était innocent, il était obéissant, finalement, jusqu'à la mort. Une mort sur une croix. Et comme il est dit en Romains chapitre 5, par un homme, Adam est entré la mort dans le monde. J'aime beaucoup cette symétrie de Dieu. Donc, c'est par un homme vient la vie. Car Dieu fait tout à justice et à merveille, en perfection totale. Jésus est celui qui est digne de juger, parce que c'est Jésus et Jésus seul qui est venu en chair. Donc, on ne peut pas venir devant lui avec toutes nos excuses en disant: oui, certainement, il va comprendre que j'ai fait plus de bien que de mal, parce que il sait ce que c'est d'être un homme. Et encore plus, il sait que, en tant qu'homme, je peux faire beaucoup de bien, tout en haïssant mon frère dans mon cœur, loin des regards de ceux qui me voient. Il connaît parfaitement le cœur de l'homme. Et pour ceux qui ont pensé qu'il est bon, ils vont comprendre. C'est là leur faute. Il est bon, et parce qu'il est bon, il doit juger avec justice. Une justice parfaite. Et la chose sur laquelle ils ont compté sera la chose qui leur fait perdre. Dieu est bon. Il doit juger. Mais notez bien, Jésus, il veut donner la vie. Nous sommes déjà dans cet état de condamnation jusqu'à ce que le Fils nous libère. Mais son pouvoir sur la vie va encore plus loin. Regardons verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et c'est là encore plus grand, plus merveilleux, la voix, la parole puissante de Jésus va faire revivre des morts dans la résurrection. Par cette parole, nous voyons dans le futur, sachant que c'est par la parole puissante de Jésus qui fait revivre des morts. Ça, c'est pourquoi on dit qu'il fallait que Jésus dise, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il fallait qu'il prononce son nom. Parce que s'il n'a pas dit « Lazare sort », tous les morts allaient sortir. Telle est la puissance du Fils de Dieu. Et quand nous lisons dans les psaumes « Les montagnes fondent comme la cire », nous comprenons que ce n'est pas simplement un joli langage, mais ça parle de la réelle puissance de Christ. Encore pourquoi il faut annoncer sa parole? Parce qu'aujourd'hui, sa parole a une puissance pour sauver la vie des gens, pour nous encourager et pour nous édifier dans la lutte de la foi. Il y a une puissance dans la parole de Dieu et c'est pour ça qu'en Ésaïe, nous avons parlé de comment la parole de Dieu ne peut jamais revenir vide. Mais elle est puissante et efficace pour toute bonne œuvre. Encore verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressuscitera pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors regardons rapidement en Apocalypse chapitre 20. Parce que c'est là où nous voyons ces deux choses décrites. Apocalypse 20 commence après que Satan est vaincu par Jésus qui revient avec les saints, donc son grande armée. Et au début de ce chapitre, nous lisons, « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée dessus de lui. Et afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, que Dieu soit loué. » Là, nous voyons une promesse dans la Bible qu'il parle de Satan lié pendant 1000 ans, ce sont des temps messianiques. D'ailleurs, pour ceux qui croient que nous sommes dans les temps messianiques, que nous faisons partie des 1000 ans, il doit quelque part arriver à comprendre le verset et il doit aussi expliquer pourquoi il y a toujours le mal dans le monde, or que pendant les 1000 ans, nous voyons que Satan est lié et ne peut plus faire du mal. Donc, je ferme les parenthèses, mais nous continuons. Verset 4. « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. » Donc cette première résurrection, c'est quand nous régnerons avec Christ pendant ces 1000 ans. Alors, ici vient une grande question théologique. Parce que quand nous lisons 2 Corinthiens 5, nous comprenons que quelqu'un qui meurt va directement avec Christ. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 15, nous avons l'idée que la résurrection se passe au moment où nous sommes avec Christ. Or, ici, nous avons l'idée que c'est plutôt avant les 1000 ans, ou au début des 1000 ans. Est-ce qu'il y a une contradiction? Absolument pas. Mais il y a une solution que, à mon sens, c'est mon avis personnel, qui est difficile à résoudre ici parce qu'on n'a pas tous les éléments pour bien comprendre la situation. Et quand nous arrivons à des choses qui sont aussi vagues mais précises. La chose la plus simple et sage à faire est de nous incliner devant la majesté et la gloire d'un Dieu tout-puissant qui, même dans sa faiblesse, est plus sage que la sagesse des hommes. Nous nous inclinons en proclamant qu'il seul est Dieu. Et même si on ne comprend pas tout, on le loue pour qui il est. Et ça, c'est donc la résurrection des justes. Mais concernant la résurrection des injustes, verset 11, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, ceux qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut plus ouvert. Et celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est-à-dire que ceux qui ont rejeté Jésus parce qu'ils croyaient que leurs œuvres étaient bonnes, ils seront jugés par chaque parole, chaque pensée, chaque acte ou inacte qu'ils ont fait pendant la vie. Et le critère est tout simplement la justice de Christ. Est-ce qu'ils vont être capables de dépasser la justice de Christ? Quelle chose effrayante. Et j'espère que personne n'y sera. Car Dieu a tout fait pour éviter une telle situation. C'est pour ça que son jugement est juste. Et verset 30, il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ce qu'il fait est désintéressé. Et à ceci, j'ajoute que le Père est roi. Oui, Jésus est le roi des rois, mais le grand problème qu'on a avec Dieu, c'est que parfois on pense à Dieu comme il est le président. Mais attention, Dieu n'est pas le président. Oui, dans une démocratie, nous avons un président. Et je sais aussi, parce que moi aussi, je viens d'un pays où nous avons fait la révolution pour chasser le roi. Et donc, je comprends tout à fait. Nous avons été éduqués dans ce système. On respecte le président. Mais je peux respectueusement ne pas être d'accord. Je le respecte, mais je peux avoir une autre opinion. Dieu n'est pas le président. Dieu est roi. Et ce qu'il dit, ben ça se tient tout seul. C'est notre type d'autorité qui va au-dessus de tout ce que nous connaissons dans le monde. Et encore, nous nous inclinons à cette autorité. Et même si on ne le veut pas aujourd'hui, c'est pas grave, on le fera plus tard. Et là, il sera grave. Dieu est roi. Alors, rappelons-nous un petit peu de ce contexte. Parce que Jésus, il vient de dire que ce n'est pas seulement guérir un homme le jour de sabbat. Oh non, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus grand. Et la chose que j'ai fait qui était beaucoup plus grand, c'est que c'est une image de ce que je ferai plus tard. Lui, avec son accent galiléen, qui avait une trentaine d'années, avec ses anciens et ses grands qui connaissaient bien la loi, lui, il parle de résurrection des morts, carrément. Alors, il faut qu'il ait des preuves, il faut qu'il ait des témoins. Et comme c'est Jésus qui a décrit la loi, ben, il est tout prêt. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Première voix, c'est Jean. Et nous nous souvenons de ces histoires de comment les pharisiens, ils ont envoyé des gens, une délégation, comme Jésus dit, envers Jean. « Es-tu le Messie ?» Il a dit non. « Bah, es-tu le prophète qui vient ?» Non. « Alors, qui es-tu ? » « Bah, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Et Jean aussi, il a profité que lorsque Jésus est venu, il a bien le désigné en tant que le Messie. Jean a rendu témoignage, ils l'ont entendu et ils l'ont compris. Ils n'ont pas cru, et voilà la faute. Jean était la lampe, il dit. Il ne reçoit pas le témoignage des hommes, parce qu'il est au-dessus de tout ça. Et donc, quel est ce témoignage plus grand? Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Tous les miracles de Jésus et surtout sa résurrection sont suffisants pour des preuves de qui il est. Même Nicodème a compris, il a dit, personne ne peut faire les œuvres que tu fais s'il n'est pas venu de Dieu. Ces choses nous rappellent qui Jésus est réellement. Il est intéressant qu'à l'époque où quelques années ou siècles, juste après, personne ne mettait en doute les miracles de Jésus. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que 1800 ans découlent et que la sagesse des hommes grandisse jusqu'à ce que nous soyons capables de renier ce que les anciens ne l'ont jamais renié. Mais Jésus a bien fait ses miracles et c'est un témoignage de qui il est. Qui d'autre? Ben, le Père qui m'a envoyé rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Le Père aussi. Et ça, c'est très grave pour ces gens. Parce que eux, ils croient représenter Dieu le Père. Et Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix parce que sa parole ne demeure pas en vous. Même Moïse n'a pas vu le Père, mais il a proclamé, parce qu'il a bien entendu et bien compris la parole. Mais comme ces gens rejettent Jésus, comme ils n'honorent pas le Fils, ils n'honorent pas le Père. Mais le Père a rendu témoignage, il a rendu témoignage aussi le jour où Jésus était baptisé par Jean en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il y avait d'autres choses encore. Le Père a parlé dans les Écritures. Les Écritures elles-mêmes sont témoins. Verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Voilà comment il faut interpréter les Écritures. Ça nous dirige toujours vers Christ. Et pour eux, ils n'avaient pas compris. Et voilà ses témoins. Jean-Baptiste, les œuvres de Jésus, le Père lui-même, et même les Écritures, parlent comme un témoin, comme le témoin qui soutient et qui donne les preuves nécessaires pour comprendre qui est Jésus. En conclusion, ces hommes nous montrent le destin sombre de ceux qui refusent de croire. Et d'abord, c'était tout simplement à cause d'une mauvaise volonté. Verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Notez-le bien, « Et vous ne voulez pas ?» Par une mauvaise volonté, on peut être exclu et disqualifié de la vie éternelle. Par une mauvaise volonté, quelque chose de bête. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on préfère vivre dans le péché que de vivre dans la lumière. Préférence, volonté, ça suffit pour nous
nous exclure finalement du royaume de Dieu.
Verset 41, « Et je n'étire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je ne suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» La recherche de la gloire des hommes engloutit finalement l'amour de Dieu dans la vie et s'empêche de croire parce que toute notre vie est bâtie sur la gloire et l'accept et le fait d'être accepté par les autres. C'est la crainte des hommes qui régit la vie au lieu de la crainte de Dieu. Et c'est terrible. C'est terrible parce que on cherche à faire l'impossible, parce qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Et on finit par ne pas plaire à celui qui est le plus important. La personne qui veut nous aider et nous bénir le plus. Et enfin, ces gens qui défendent Moïse, ils se trouvent condamnés par lui parce que on a parlé tout à l'heure des critères du jugement. Les critères, c'est la loi. Et Jésus dit, ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Moïse a donné tous les créés. Jésus est dans la Torah, visible. Il faut croire pour voir. Jésus est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner. Et c'est ça ce qu'il veut. Pour nous qui sommes déjà dans le royaume, partageons cette bonne nouvelle. C'est une réelle bonne nouvelle. Jésus donne la vie. Et rappelons-nous de ce Fils si puissant, dont la parole fait revivre les morts ici et le fera plus tard.